Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcastine.
Aujourd'hui, nous recevons Peyo Lizarazu dans Podcastine juste avant votre séance de dédicace à Bordeaux chez Mola ce mercredi 16 novembre pour votre livre « Vie de surf » publié le 28 octobre aux éditions de La Martinière. Bonjour.
Bonjour.
Le 22 novembre 2002, il y a 20 ans, jour pour jour, avec des amis, vous surfez la mythique vague de Bellara, située au large d'Urugne dans le Pays Basque. Vous êtes les premiers à dompter, dites-vous, ces vagues géantes qui peuvent atteindre 8 mètres de haut, soit un immeuble de 4 étages. Cette aventure un peu dingue, c'est le point de départ de votre livre, Peyo Lizarazu. Vous embarquez les lecteurs dans les houles du monde entier, comme à Tahiti. Dans ce récit tout à fait personnel, vous y décrivez les rencontres que vous faites. Il y a des témoignages d'autres surfeurs ou de personnes inspirantes, mais aussi des entretiens inédits. Vous parlez de votre enfance sur l'île de Maui à Hawaï et vous livrez dans cette histoire iodée votre vision du surf, votre manière de maîtriser l'écume. Nous y reviendrons bien évidemment. C'est un bel objet, il faut le dire, de 288 pages, mais pas de panique. Depuis le début de votre carrière de surfeur et de vos premiers titres internationaux, vous êtes accompagné par des photographes. Leurs clichés de vos prouesses dans les plus belles vagues turquoises du monde jalonnent largement le livre. On retrouve aussi des photographies plus intimes avec votre frère, par exemple. Bref, Vie de surf, une véritable déclaration d'amour à ce sport des rois naturels de la Terre, comme le décrivait l'écrivain américain de Californie Jack London il y a presque un siècle, et que vous citez d'ailleurs dans votre livre pour parler de la mécanique des vagues. Pour quelle raison, à 47 ans, vous avez eu l'envie d'écrire cet ouvrage?
Très simplement, parce que ça m'a été proposé. J'avais eu des propositions similaires dans le passé, d'autres maisons d'édition, d'autres types de projets que des projets de livres, propositions que j'avais esquivées. Et là, l'anniversaire, le prétexte de l'anniversaire, du 20e anniversaire de nos premières vagues à Bellara, et cette proposition des éditions La Martinière m'ont fait accepter de me dévoiler un peu et de raconter au travers de mon témoignage ce que j'ai vu du monde du surf, que j'ai pu visiter de manière assez intime pendant déjà 3 décennies.
En combien de temps vous avez rédigé le livre ?
La partie texte s'est fait en un peu moins d'un an et tout le choix des photos qui avaient été, disons, prédigérées s'est fait vraiment en 6 mois. Donc ouais, c'est un projet de un peu moins de 2 ans, mais c'est le temps qu'il faut pour faire ce livre qui est effectivement hors catégorie, dans le sens où ouais, c'est pas un journal intime non plus, c'est un peu un carnet de voyage, c'est des témoignages et des portraits de gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et ça prend le temps, surtout quand effectivement on part d'une page blanche et qu'on dit on veut un beau livre sur le surf, qu'on parle un peu de Bellara, et puis tu nous racontes un peu tes meilleurs voyages. C'était ça le pitch initial, et le rendu est plutôt pas mal effectivement.
Nous allons revenir à vos débuts. À quel âge vous avez commencé à surfer? Votre père vous avait fabriqué une planche à l'époque, c'est ça?
Oui, j'ai commencé à surfer dès l'âge de 5 ou 6 ans, je pense, avec mon papa qui était un surfeur, à une époque où surfer était une activité très saisonnière. essentiellement l'été ou au début de l'automne où il fait toujours très bon, même dans les années 60 et les années 70. Et très vite j'ai pris goût à ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un déclic à une époque où le matériel pour les jeunes surfeurs était très peu disponible, et j'ai mon cousin qui est un très bon surfeur qui a eu droit à une première planche de surf, et ça m'a donné envie d'avoir mon propre matériel. Mon papa qui à l'époque est en train de se fabriquer une planche de windsurf a fait la démarche de me fabriquer ma propre planche. Et à partir de là, à l'âge de 6-7 ans, eh bien, ça a été le début d'une longue histoire.
Quelles sont les premières vagues de Peyo Lizarazu ?
Les premières vagues, c'est exclusivement dans ma ville natale d'Andaï, qui est une plage bien particulière au sud de la côte basque, à la frontière avec le Pays basque espagnol. Une plage qui était très calme à l'époque, où les vagues sont toujours beaucoup plus petites qu'ailleurs, avec une plage très plate, idéale pour l'apprentissage du surf. J'ai commencé à une époque où on était peu de surfeurs, et donc j'étais accompagné au début de mon père, après d'amis surfeurs, des grands frères de surf, comme je les appelle dans le livre. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui, avec cette même plage d'Andaï qui est devenue un peu la piste verte, une des pistes vertes du surf français, où de nombreuses écoles, et pas uniquement celles basées sur Andaï, viennent se réfugier sur cette plage idéale pour l'apprentissage du surf. Et voilà ce qui a été le début du surf. Après, dès que j'ai eu une capacité de déplacement avec des mobilettes ou des amis, j'ai été voir un peu plus au nord, vers Saint-Jean-de-Luz, vers Guétari, où les vagues sont toujours un peu plus grosses que sur cette sacrée plage d'Andaï.
Donc à l'époque, on pouvait vous croiser avec une planche de surf sur une mobilette ?
Oh ouais, on pouvait me croiser. Alors sur la mobilette, en général j'étais seul, mais j'allais retrouver mon cousin sur Saint-Jean-de-Luz. Et effectivement, ça se voit toujours sur la côte basque, mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont accompagnés par des clubs, il y a des camionnettes. À l'époque, tout ça n'existait pas et il fallait être indépendant dans ses mouvements et on se débrouillait avec notre propre moyen de transport, effectivement, des housses en bandoulière, la planche sur le côté, et on est arrivé à sillonner la côte basque pour aller chercher les vagues dès qu'elles faisaient défaut sur Andaï.
Alors, vous commencez à enchaîner les compétitions de surf quand vous êtes jeune, vous êtes promis même un bel avenir, mais finalement, vous préférez vous consacrer au rugby, pourquoi ?
Je décide de manière un peu abrupte de me consacrer plus au rugby par goût pour ce sport collectif, et parce que la compétition de surf que j'ai découvert très tôt m'a montré aussi ses limites à une époque où les compétitions pour les jeunes étaient très souvent organisées en période estivale, période où les vagues en général sont très petites, et j'avais déjà dès ces premières années de compétition ce goût des grosses vagues que je ne retrouvais pas dans les compétitions. Donc voilà, j'ai trouvé dans le rugby des choses que je ne trouvais pas dans le surf, et c'est vrai que entre l'âge de 13 ans où j'ai eu ce titre de champion d'Europe espoir de surf en 1988 et l'année de mon bac, j'ai fait une transition très naturelle du surf vers le rugby, avec l'année de ma terminale où j'étais officiellement inscrit en sport-études surf à Biarritz, mais en fait avec l'accord de mon entraîneur de sport-études surf et l'accord de l'entraîneur du sport-études rugby de Bayonne, je suivais plutôt les entraînements du sport-études rugby de Bayonne, et une fois mon bac en poche, je suis venu ici à Bordeaux pour étudier et jouer pour le grand club phare de la région qui était le CABBG à l'époque.
On sent chez vous, Peyo Lizarazu, une envie d'être en groupe, de collectif. C'est important pour vous par rapport à la pratique du surf qu'on peut considérer un peu plus individuel ?
Mais c'est vrai que ce surf a toujours eu et a toujours cette étiquette d'un sport individuel. Ce que j'ai aimé retrouver dans le surf, et en particulier le surf de grosses vagues, qui se pratique, pas exclusivement, mais qui se pratiquait pour la découverte de Bellara avec l'utilisation de jet ski, c'est cette dimension collective. On dépend d'un partenaire qui est en général très expérimenté, aussi expérimenté que nous, qui est lui-même en général un surfeur. Et c'est ce travail collectif qui nous a permis de surfer ces énormes vagues sur Bellara. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette dimension de tribu, avec ce que ça veut dire derrière et ses limites. Derrière la tribu du surf, il y a plein de diversité, des gens qui surfent de certaines manières, des gens qui n'aiment pas les grosses vagues, des gens qui ont une démarche très très personnelle. Pour ce que j'aime en tout cas, et en ce qui me concerne, c'est le surf de grosses vagues. Il y a effectivement une grosse dimension collective qui est importante pour moi. Et je pense que si j'ai su apprécier ce surf de grosses vagues et cette dimension collective, c'est parce que j'ai passé pas mal d'années à jouer au rugby avant.
Décrivez-nous vos premières sensations quand vous surfez la vague de Bellara en 2002. Décrivez-nous un peu cette aventure.
La réalité était très très simple. Et avant d'être une vague mythique, comme vous l'aviez dit en introduction, Bellara est surtout une vague qui était méconnue, en tout cas méconnue des surfeurs, et une vague très rare. C'est un haut fond qui est situé à 2,5 km au large de la côte basque, entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Techniquement en face de la commune d'Urugne, qui est la seule commune de la côte basque côtière à ne pas avoir de plage, mais paradoxalement à une des plus grosses vagues du monde. Et cette vague donc, est ce qu'on appelle un haut fond, donc une vague qui casse sur une montagne sous-marine qui vient affleurer avec la surface de l'eau, mais en fait qui n'affleure jamais parce qu'elle reste quand même à 15 mètres de profondeur sur une zone qui en général a 40 mètres de profondeur en moyenne. Donc ça fait une petite montagne qui remonte, et quand la houle est assez grosse, cette montagne génère une vague qui déferle. Il faut des conditions de vague bien particulières pour que ça déferle. La mécanique des vagues veut que pour qu'une vague déferle, il faut en général que la profondeur d'eau soit équivalente à la taille de la houle. Donc comme il y a une profondeur d'eau en moyenne de 15 mètres, il faut qu'il y ait de la houle de 15 mètres pour que Bellara déferle. Ce qui explique sa rareté. On est en plus de ça au large, en pleine mer. Et malheureusement pour nous, quand Bellara déferle, il y a très souvent des tempêtes et des mauvaises conditions de vent. Donc c'est très souvent qu'on a regardé Bellara d'abord dans des conditions de tempête qui étaient totalement impraticables, pour la voir enfin un jour avec du beau temps et pas de vent. Et s'il y a quelque chose de bien particulier à Bellara, effectivement, c'est cette rareté et le simple fait de pouvoir surfer cette vague. Ça a été une grosse satisfaction, parce que pendant 3-4 ans... je l'ai observé seul, ensuite avec ses amis que j'ai réussi à convaincre de l'intérêt d'aller regarder cette vague, parce qu'ils n'avaient pas forcément l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller voir. Et puis une fois qu'on y a surfé une première fois, ça a été ça a été un peu comme gravir une montagne, hein. On était plein d'euphorie, et puis on a pu le refaire la même année, quelques mois plus tard, dans des conditions encore plus belles. Et puis voilà, ça va faire 20 ans dans quelques jours qu'on a pris cette vague pour la première fois. Les conditions sont toujours aussi rares, en moyenne une à deux fois par an, et il faut être prêt, il ne faut pas louper ça. On a eu la chance d'avoir des vagues il n'y a pas si longtemps que ça, mais on n'est pas certain d'en avoir d'autres pour le reste de l'hiver 2022-2023.
Le titre de votre livre « Vie de surf » est au pluriel. Vous avez l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en tant que surfeur, Peyo Lizarazu?
Quand je parle de vie de surf au pluriel, c'est surtout la vie des autres que j'ai voulu raconter. Effectivement, j'ai eu quelques facettes différentes dans ma vie, mais comme chacun, je pense, on a des choix à faire et on fait des choses différentes dans sa vie. Mais ce pluriel est surtout pour les vies des autres personnes sur lesquelles j'ai voulu apporter un éclairage. Des gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer, certains qui sont des amis, certains qui sont connus, d'autres moins connus. J'ai voulu apporter mon éclairage sur ces gens qui sont pour moi importants dans l'histoire du surf et que je voulais faire découvrir à un lectorat français.
Pouvez-vous peut-être nous parler d'une personne qui vous a particulièrement touché, qui a changé votre vision de vous et de votre rapport au surf?
Ma première patronne, Marine Choudary-Grand, Dans ma vie et dans une de mes vies, j'ai une carrière de 25 ans au sein d'un grand groupe dans le monde de l'industrie du surf, qui est essentiellement une industrie du textile. Et ma première patronne, Marie-Chou Darigrand, est une femme dans un monde très masculin, qui a eu elle aussi plusieurs vies, une vie de passionnée de surf, de ski, de montagne. C'est une dame aujourd'hui qui est à la retraite, qui est toujours une passionnée de mer, qui se baigne quasiment tous les jours à Biarritz, que j'ai le plaisir de revoir très régulièrement, et qui a été une vraie guide silencieuse, qui m'a appris mon travail et qui m'a fait découvrir et rencontrer des gens, y compris des fois avec quelques années de décalage. Elle me présentait des gens, je comprenais pas trop, mais quelques années plus tard, j'ai compris la qualité de certaines des personnes que Marie-Chou m'avait présentées, et je l'en remercierai jamais assez.
Il y a une part de spiritualité dans votre pratique du surf, non ?
Je pense que tous les sports en contact avec la nature amènent forcément à voir les choses différemment. J'aime pas forcément parler de spiritualité. C'est juste qu'il faut être connecté à ce qu'on voit. Faut savoir être patient, ça. La pratique du surf et de tous ces sports de nature. Mais c'est vrai que le surf est particulier en ça, que j'aime beaucoup souvent faire des parallèles avec la montagne pour expliquer les similitudes et les différences. Et pour ce qui est des vagues et des pistes de ski, par exemple, j'aime souvent dire que la neige, en général, quand elle tombe, elle est là, elle reste là. Mais les vagues, elles sont là et puis elles peuvent disparaître au bout de quelques heures. Donc c'est vrai que le surf enseigne une notion de savoir profiter du moment quand il est là, avec toutes les contraintes que ça peut représenter sur la vie, des choix à faire parfois pour se rendre dispo, et puis des fois des choix à faire de se dire mais non, je peux pas y aller parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai un travail à faire, je dois m'occuper d'une famille. Est-ce que c'est de la spiritualité? Je suis pas certain, mais c'est vrai que on peut tirer de grands enseignements de cette relation avec la mer sur le long terme.
Vous êtes allé partout dans le monde, vous surfez depuis tout petit, mais si vous deviez peut-être retenir un seul moment, le plus beau, quel serait-il ?
Ah, bien sûr que cette première vague à Bellara était un très bon souvenir, mais j'ai un gros attrait pour la Polynésie, pour Hawaï et pour Tahiti en particulier. Et c'est vrai que un endroit comme Tchopo, avec tous les amis qui sont autour, parce que les endroits, c'est une chose, mais en général, on est toujours guidé par des gens. Et ce qui m'attire surtout dans Tchopo, c'est tous les gens qu'il y a autour, tous ces amis qui m'ont permis de surfer des vagues incroyables, et des amis avec qui j'ai toujours le plaisir d'échanger, que j'espère revoir bientôt en retournant en Polynésie. Mais oui, la Polynésie et la vague de Tchopo en particulier est quelque chose de mémorable.
Alors aujourd'hui, vous pratiquez le surf foil. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ? C'est une manière peut-être de réinventer votre pratique ?
Je n'invente rien pour ce qui me concerne, mais je profite des technologies et des avancées développées par des pionniers que sont Laird Hamilton, par exemple, que j'ai la chance de côtoyer de manière assez intime. Effectivement, j'ai la chance de découvrir ces pratiques peut-être un peu avant d'autres, et de m'y intéresser. Et le surf foil est une de ces techniques un peu récentes dans le monde du surf. Mais comme souvent, si on prend un peu de recul, le foil n'est pas une invention récente. C'est une invention qui date de la Seconde Guerre mondiale, je crois, d'ingénieurs italiens, pour des bateaux plus d'inspiration militaire. C'est une invention qui a ensuite été adaptée pour la voile sportive avec, je crois, des bateaux d'Eric Tarbarly. Et ça fait depuis une petite vingtaine d'années qu'il y a des tests qui sont faits pour le surf. Et depuis une petite dizaine d'années, ça commence vraiment à être bien affiné. au point que le surfoil commence à être un équipement qui est commercialisé auprès d'un grand public. Alors ça reste un public niche, hein. Aujourd'hui le surfoil est une technique de surf de très haut niveau qui ne s'adresse qu'à des gens qui ont 10, 15, 20 ans de surf derrière eux. Mais c'est vrai que c'est très beau, c'est très gracieux, il y a beaucoup de gens qui nous interpellent, comment peut-on faire du surfoil? Et la réponse elle est simple, hein. Il faut d'abord savoir très bien surfer avant de s'élancer sur ces planches avec cet appendice, cette dérive très particulière, mais elle permet de glisser sur des distances bien plus longues et c'est quelque chose d'assez bluffant, ouais.
On a d'ailleurs l'impression que vous volez sur l'eau quand on vous regarde.
Mais c'est exactement ça. Il y a une sensation de légèreté parce que on est au-dessus de l'eau, on est en contact avec l'eau via cet appendice qui reste immergé dans l'eau. Mais voilà, un des enjeux du surf et en particulier sur les grosses vagues, c'est de gérer la vitesse et le clapot qui vient générer des bosses qui à grande vitesse peuvent être très violentes. Et le fait d'être à 10, 15, 20, 30 centimètres au-dessus de l'eau, on n'a pas ces bosses et on a une capacité de déplacement et de vitesse qui est bien plus importante. Donc on fait des courbes beaucoup plus rapides, beaucoup plus longues aussi. Et on est en mesure surtout de surfer des vagues qui ne déferlent pas. On a besoin d'une déferlante pour se lancer, mais une fois qu'on est lancé, on peut glisser sur l'énergie de l'ondulation qui n'a pas encore cassé, ce qui est assez bluffant parce qu'il y a tout un silence. Et c'est une pratique en ce sens très, ouais, très particulière.
Vous avez arrêté la compétition. Aujourd'hui, vous êtes très investi dans la pédagogie, notamment au niveau de la sécurité à Bellara. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Il y a quelques enjeux de sécurité sur ces spots de grosses vagues, mais pas uniquement. Quand on pratique une activité de plein air, mais forcément, il y a quelques contraintes de sécurité. Nous sommes des êtres humains et on n'est pas forcément fait pour rester immergé sous l'eau trop longtemps. Alors par chance, le surf reste quand même une activité peu accidentogène par rapport à d'autres activités. Mais il y a quelques enjeux de sécurité aujourd'hui avec un nombre de pratiquants qui explose et donc une concentration de ce nombre de pratiquants en général sur les mêmes spots qui fait penser à des enjeux de surpopulation. Des collisions, et il y a pas mal de choses à dire, à expliquer, à décortiquer. C'est pas évident, c'est nouveau comme sujet, donc il faut effectivement faire de la pédagogie, sans pour autant rester ancré dans le « c'était mieux avant ». Je pense qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont très bien, un grand nombre de gens découvrent le surf, mais il y a des choses à préparer pour que le plus grand nombre puisse continuer à profiter de cette activité autour des vagues de la meilleure des manières.
Merci Peyo Lizarazu d'avoir répondu à nos quelques questions.
Merci à vous.
Je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs que votre livre « Vie de surf » aux éditions de La Martinière est disponible depuis le 28 octobre dans toutes les librairies au prix de 39,95 €.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garay Coetchea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.